Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Les débats avec vous et puis comme depuis le début de la semaine, le dispositif qui a été mis en place par Sud Radio pour la présidentielle avec Gilles Gansman qui va nous faire un petit zapping. Je vous présente mes invités autour de la table aujourd'hui. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir.
Bonjour.
Alexis Poulain, journaliste qui devrait nous rejoindre, directeur de la publication du Monde Moderne. Il est là, il est en Zoom.
Effectivement, en Zoom, en studio.
Et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement. Alexis Poulain, vous êtes également éditorialiste sur RT France. Alors Gilles, le zapping politique.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
C'est vraiment un mouvement sur les réseaux sociaux, des appels à brûler son passe vaccinal physiquement et à la caméra pour lutter contre la loi récemment votée. Et hier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, un citoyen engagé, le fameux Olive Olive, a brûlé son passe. Un gasbourg du pauvre.
Olive Olive, est-ce que tu as brûlé ton passe ?
Non, bah tiens, regarde, je vais le faire symboliquement ce soir.
D'accord, mon passe,
parce que pour venir sur ce plateau, on est obligé de faire des passes. Et là, je vous lance un message. Ça, c'est la flamme de la liberté. Wow. Et j'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. Vous voyez, c'est symbolique, mais moi, je le fais devant vous, monsieur.
C'est grandiloquent.
Ça vous choque qu'on brûle son passe ?
Oui, ça me choque. On peut être très réservé sur ce pass, notamment le fait qu'il concerne les enfants à partir de 12 ans. Moi, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais en même temps, comment on se protège ? Comment on protège les plus fragiles, tout en continuant à avoir une activité économique, une vie de quartier digne de ce nom ? Donc, je n'aime pas tout dans le pass vaccinal, loin s'en faut, mais en même temps, je considère que c'est un mal nécessaire et que quand on, en tout cas, on est un responsable public, on doit se comporter en responsable. Donc, comme dirait M. Dapalis, responsable, si on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire.
Hier, Éric Zemmour était sur BFM, Valérie, il est revenu sur le lâchage de son ami Robert Ménard, qui s'est engagé auprès de Marine Le Pen. Alors hier, il était face à Apolline de Malherbe, et vous allez voir, il n'a pas mâché ses mots sur cette trahison.
Il n'y a que moi qui suis effectivement en rupture.
Mais il ne parle pas de cette rupture-là, il parle de votre brutalité et de votre manque d'empathie.
D'abord, Robert Ménard. Se prétend mon ami, je crois, quand je l'écoute et quand je le vois, je crois entendre Charles Pasqua me dire « Avec des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis ». Il a choisi de soutenir Madame Le Pen, sur lequel il disait « pique-pampe » pendant des années. C'est son problème et c'est le leur. Maintenant, on peut dire que, vous savez, il y a des amis qui se retournent. Donc très bien, il est avec Madame Le Pen, il est devenu un adversaire politique, j'en prends acte. Je considérerai désormais tout ce qu'il dit comme le fait d'un adversaire politique.
Très bon imitateur, hein, vous avez vu. Très très bon imitateur et découvre la politique, on dirait. Et pour finir, hier, c'était le grand oral de Valérie Pécresse. Et voyons la campagne tirant sur sa droite dure. Elle a effectivement sorti des mesures karcher, vous allez voir, pour les banlieues.
Je vais créer des brigades coup de poing. Pourquoi faire ? Pour éradiquer l'ultra-violence dans les quartiers. Avec des armes de la police et de la gendarmerie. On aura peut-être besoin de sécuriser la zone, de façon à ce que les gens ne rentrent pas et ne sortent pas pendant l'opération.
Que l'armée va sécuriser la police ou la gendarmerie.
Absolument,
quoi, c'est ça.
Sécuriser l'intervention
si
de la police
mal,
et de la gendarmerie.
Si ça se passe mal, cette intervention. Et si il y a une forme d'intrusion et que l'armée doit protéger l'opération.
Mais pardon de vous dire que la police aussi a le droit de tirer, hein, si ça se passe mal.
Évidemment, le fait d'autoriser, entre guillemets, à tirer est quelque chose qui a été remarqué.
On a entendu ce que disait Mathieu Vallet, que ça n'avait pas de sens, Éric Tegner.
Oui, c'est un non-sens, en fait. C'est toujours selon cette théorie comme quoi il y aurait des no-go zones en France, qu'il faudrait amener l'armée. En fait, les policiers, aujourd'hui, on le voit à Marseille, moi j'étais allé faire une enquête là-bas, ils arrivent à aller partout. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont armés avec des tout petits pistolets. Souvent, ils doivent fabriquer eux-mêmes leurs béliers. Ils n'ont pas du tout les derniers talkie-walkie. C'est-à-dire que, en fait, avant de penser à envoyer l'armée, il faut d'abord soutenir financièrement nos policiers et leur donner les moyens aussi de tenir le terrain. Ça, c'est essentiel. Et d'avoir la réponse à un moment donné judiciaire. Dites-vous qu'aujourd'hui, si des policiers, ils arrêtent un dealer et qu'ils arrêtent sa voiture, si la voiture n'est pas ouverte, mais qu'ils voient de l'extérieur de la cocaïne à l'intérieur, ils n'ont pas le droit légalement d'arrêter le dealer.
Donc, Valérie Pécresse n'y arrivera pas.
Non, je pense que c'est du vent pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas.
Donc on fait rien.
Y a rien. Ouais. Bah non, justement, je viens de dire qu'exactement ce qu'il faut faire, c'est soutenir. C'est la réponse d'abord judiciaire, pas considérer que les policiers ne peuvent pas faire leur métier aujourd'hui. Je pense que agiter le fait qu'on envoie l'armée, factuellement, je pense que c'est des belles promesses et que si non, elle était élue, elle ne les appliquerait pas. Personne ne l'a jamais fait. Ouais. Ça a pas de
Nicolas
sens.
Corato, un mot ?
Oui, c'est les limites de l'ultra-communication et des éléments de langage et des punchlines qu'emploie beaucoup Valérie Pécresse. On n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans l'opérationnel. J'ajoute que si vous interrogez les experts militaires, les militaires de notre pays ou ceux qui sont en charge de différents états-majors, tous vous disent que c'est la dernière chose à faire, d'envoyer l'armée sur le territoire national. Je rappelle d'ailleurs que l'armée en France est une armée de défense et n'est pas une armée qui a pour territoire d'opération le territoire national. Il y a des forces de l'ordre qui sont habilitées à le faire, notamment la gendarmerie, qui est un corps à la fois militaire et policier et qui a tout à fait les capacités de remplir ses missions de forces de l'ordre. Donc, appeler l'armée, c'est appeler un mot à la rescousse. Et je pense que les Français sont lassés des mots. Ils veulent des actions, ils veulent des moyens pour leurs policiers, des moyens pour leurs juges et leurs magistrats et pas des éléments de langage.
Et d'ailleurs, si je peux rebondir rapidement là-dessus, il ne faut pas oublier l'épisode des Gilets jaunes où on a envoyé des policiers qui n'étaient pas formés pour s'occuper de manifestation. L'armée n'est absolument pas formée sur ce métier.
C'est ce que disait Mathieu Vallet tout à l'heure.
Voilà. Et il y a ce qu'on appelle, vous savez, des brigades spécialisées de terrain qui ont été créées en 2013. Il faut les utiliser, il faut les renforcer. C'est ces dispositifs, ils existent.
Ouais. On va s'interrompre quelques secondes pour le journal et on continue de débattre avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous, avec aujourd'hui Florence Berthoux, maire du 5e arrondissement de Paris, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur RT France, Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne Livre Noir, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Alexis, on ne vous a pas entendu sur peut-être sur la police avant de parler de continuer sur l'actualité et nos sujets.
Sur la police, j'étais assez d'accord avec tout le monde ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que ça suffit de faire des effets d'annonce, de parler carchère, de parler armée dans les quartiers, de parler moyens. Même les 15 milliards d'Emmanuel Macron, c'est bien joli, c'est des chiffres en l'air. Il y a encore deux policiers qui se sont suicidés cette semaine dans le nord de la France. C'est un métier qui est en grave tension, qui est difficile, qui est mal aimé, sous-estimé et utilisé par les politiques sans en donner les moyens. Donc, je comprends le ras-le-bol de tout le monde. Cette campagne, elle m'énerve parce qu'elle est inutile, lamentable. Enfin, on voit qu'il y a personne qui a vraiment d'idée en réalité sur cette question-là. Alors, Éric Zemmour met un peu les pieds dans le plat. Il va être à Calais aujourd'hui pour parler immigration pendant qu'Emmanuel Macron sera à Strasbourg pour parler Europe. Mais la question des moyens policiers, c'est une question qui est fondamentale parce que c'est une question de pacte républicain, c'est une question de moyens, c'est une question de sécurité de tous les Français. Et aujourd'hui, on voit bien que le compte n'y est pas. Et dire qu'on va ouvrir plus de places de prison et qu'on va faire appel à l'armée, c'est de la pensée magique. Voilà, c'est de la pensée magique.
Alors, on va continuer notre tour de table. Donc, les sujets, on va évoquer hier Valérie Pécresse face à Jean-Jacques Bourdin. On va parler du prix du carburant. Appelez-nous 0826-300-300 pour nous dire comment vous pensez vous débrouiller. Et 8 Français sur 10 favorables à une baisse d'impôts sur les successions. On continue notre tour de table. Florence Berthoux, on va commencer. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. On commence avec vous. Coup de cœur.
Alors, coup de cœur... J'étais hier au Panthéon, aux côtés d'un des fils de Simone Veil, et nous commémorions le 15e anniversaire de l'entrée des Justes. Moi, je trouve que c'est bien dans ces périodes qui sont des périodes de grave tension, de rappeler que des Français courageux sont capables de sauver des êtres humains. De rester sur les fondamentaux. J'entendais ce qu'ils disaient sur les policiers, oui, les moyens, etc. Mais il y a aussi un langage à tenir et à partager. Bon, et ce que nous renvoie l'entrée des Justes qui a été décidée il y a 15 ans par Jacques Chirac, le 18 janvier 2007, sur proposition de Simone Veil, c'est pas un discours de contrition, c'est un discours de courage et de vérité. Et je trouve que c'est beau, ces exemples. Alors, de Françaises, de Français qui, au péril de leur vie, ont décidé, qui en général d'ailleurs sont d'extraction extrêmement modeste, et qui ont décidé, contre vents et marées, de protéger les plus fragiles. C'est l'action. Et moi, je crois à ça. En tout cas, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. Et les juges, comme vous le savez, eh bien, c'est la plus haute distinction qui est donnée par l'État d'Israël. Et c'est quelque chose qui est symboliquement très, très fort. Alors, il y en a plein qui ont aidé. Ouais. Moi, j'ai eu dans ma famille, du côté de ma mère, des paysans qui ont aidé des juges, ça, qui ont participé, tout... qui en particulier fuyaient Paris. Et ça ne leur serait jamais venu à l'idée d'avoir une quelconque médaille. Ils pensaient que c'était tout à fait
normal,
naturel. Et c'est pas un gros mot de dire nous devons aider, appuyer notre prochain, et en particulier quand c'est le plus fragile. Donc cette cérémonie, on fait beaucoup de cérémonies mémorielles qui sont un peu pour occuper le terrain. Je trouve qu'elle avait tout son sens, et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus qu'il n'y ait pas eu pas plus d'élus qui est participé à cette cérémonie où il y a eu des témoignages d'ailleurs bouleversants, des lectures de Claire Chazal, de personnes très très âgées qui parlaient de la manière dont leurs parents ou eux-mêmes avaient fait, en considérant que c'était tout à fait normal.
On passe au coup de cœur ou au coup de gueule d'Alexis Poulain. C'est un coup de gueule, j'imagine.
Alors, c'est un coup de gueule, oui. Je sais pas si vous avez suivi ces auditions du cabinet McKinsey, cabinet de conseil à l'Assemblée nationale, puisque la représentation nationale a demandé un peu des comptes, hein, finalement, parce que l'État se désengage de ses missions de service public en externalisant à des cabinets de conseil pour beaucoup. Et là, il y a une question qui était incroyable. Donc, on apprend que McKinsey n'a pas rempli correctement les fiches de réponse, donc il y avait beaucoup de d'oubli, d'angle mort, et donc la rapporteuse demande, mais attendez, vous avez eu un budget de 500 000 euros du ministère d'éducation nationale, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous avez fait? Alors l'associé de McKinsey répond à côté, et elle reprend, elle dit non mais concrètement qu'est-ce que vous avez fait? Et là la réponse tombe, elle est impressionnante, et disent pour 500 000 euros, eh bien on a accompagné la réflexion sur les thèmes de réflexion pour un séminaire du ministère de l'éducation. Voilà, donc c'est faramineux l'argent que ces cabinets de conseil pompent aux finances publiques, à nos impôts, pour s'enrichir et pour faire du bullshit job, c'est-à-dire des faux boulots, du faux conseil sur des trucs inutiles. Combien de ministères empêtrés avec ces cabinets de conseil? C'est le ministère de la Santé aussi. On doit à Bain, par exemple, autre cabinet de conseil, McKinsey et d'autres, l'hôpital de flux, cette idée formidable de fermer des lits tout le temps parce que finalement, c'est l'hôpital de flux, c'est très bien, et que l'hôpital doit devenir un de profit comme un autre. Ces gens-là sont payés pour déposséder l'État et pour privatiser les services publics avec nos impôts. Il serait temps peut-être de cibler la fin de la récré, parce que là, quand même, 500 000 euros pour réfléchir à des réflexions, bravo les gars, franchement, vous vendez du vent, vous vendez du rêve, mais franchement, vous nous volez. Donc, il va falloir arrêter un moment.
C'est vrai qu'on s'interroge parfois sur ces cabinets de conseil ou sur ces... Il y avait, j'ai oublié son nom, cette femme qui avait monté une association pour la déradicalisation, qui a touché près d'1 million d'euros et qui avait un profil assez douteux d'ailleurs, et qui n'a rien remis du tout.
Mais vous savez,
quand j'ai présidé
une mission pour le compte du Conseil de Paris sur la propreté, qu'avait demandé mon groupe politique, donc j'étais la présidente de cette mission d'information sur la propreté. Au moment de rendre le rapport, ça faisait quand même 7 mois qu'on travaillait avec l'administration, qui était obligée de nous donner les éléments que l'on souhaitait. Eh bien, ça avait fait un gros scandale à l'époque. La maire de Paris avait commandé un rapport, alors c'était moins onéreux, de 220 000 euros, pour interroger les Parisiens sur le sentiment qu'ils avaient de l'espace public, où on a eu des perles autour de la propreté. On n'avait pas besoin de faire cette enquête pour savoir que Paris était sale et que tous les Parisiens considéraient que c'était sale. Et le rapport faisait 12 pages. cher monsieur, à l'arrivée. 12 pages, la toile s'était enflammée. Évidemment, c'était absolument pas objectivé, c'était des enquêtes d'opinion. Pour savoir ce que les Français, ce que les Parisiens pensaient de la propreté.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Alexis Poulain. Ce que j'essaierais plutôt de mettre en avant, c'est que souvent, quand on parle de McKinsey, les gens se disent « Ok, c'est une grosse société, etc. » Ils ne comprennent pas vraiment qui est dedans. Et de l'autre côté, les politiques peuvent, à juste titre, critiquer McKinsey, mais il faut savoir qu'en fait, la moitié des collaborateurs de McKinsey sont des hommes politiques, ou des anciens hommes politiques, ou des gens qui y reviennent. Moi, j'ai un nom, je ne veux pas le lancer en pâture, mais je pense à Maëlle de Calan, qui vient de McKinsey, qui aujourd'hui rejoint Valérie Pécresse. À un moment donné, c'est aussi ça qui fait qu'ils arrivent à négocier des montants aussi faramineux, c'est que la droite, la droite des Républicains, également du côté d'En Marche.
Je pense que l'exemple de la mairie de Paris...
Oui, mais à un moment donné, il faut quand même le dire. Et moi, je n'entends pas, va y avoir scandale là, mais à mon avis, il n'y aura aucune répercussion, il n'y aura aucune enquête pour se demander quelles sont les équipes présidentielles aujourd'hui qui ont dans leur sein des connivences fortes avec des gens de McKinsey ou d'anciens de McKinsey, parce qu'à un moment donné, s'il y en a, il faut le savoir, parce qu'on sait que si ces personnes-là seront élues, il se reproduira exactement la même chose. Vous savez, moi, je ne suis pas vraiment pour le côté de lancer tout le temps des accusations contre des entreprises. Une entreprise, elle veut faire du profit, on peut le comprendre. Le rôle du responsable politique, c'est de contrôler ça. Le problème, c'est les connivences fortes entre ces hommes politiques et ces cabinets. On parle souvent de l'affaire Alstom, etc. Ben, c'est la même chose. Ils ont arrosé tous les cabinets parisiens. Alors aujourd'hui, on s'attaque à certaines personnes, etc. Mais on ne se pose pas les bonnes questions. Je vais vous reparler à nouveau de Valérie Pécresse. Vous allez vous dire que j'ai un problème avec elle. Mais on ne s'interroge pas aujourd'hui. Moi, je n'entends pas de retour sur l'affaire Alstom. On s'interroge sur le rôle de son mari, Jérôme Pécresse, qui aujourd'hui est le seul dirigeant français dans le top 10 de General Electric, que alors que les sociétés américaines donnent en général les rémunérations, Jérôme Pécresse est un des seuls dont la rémunération n'est pas connue, alors qu'on sait que dans le top 10, c'est entre 5 millions et 25 millions par an. Moi, je pense que c'est important. Le rapport, il est qu'en fait, je trouve ça complètement, pour le coup, démago de se contenter de critiquer des entreprises quand on est responsable politique, sans se dire, en fait, est-ce que j'ai mon bras droit ou mon bras gauche qui est dans cette entreprise ou qui a des liens avec cette entreprise. C'est complètement lié, parce que le sujet, c'est des hommes politiques, justement, qui choisissent de faire des commandes à des entreprises. L'entreprise, elle n'a pas mis un pistolet sur la tempe de l'homme politique. C'est l'homme politique qui le décide.
Nicolas, qu'aura-t-on un mot peut-être là-dessus ?
Peut-être deux choses rapidement. D'abord, moi j'ai toujours été très choqué que ces cabinets dont quand même l'objet est d'expliquer comment on peut réduire la jauge dans les services publics soient payés par les services publics. C'est-à-dire que finalement, ils sont en conflit d'intérêts permanent, puisque je le rappelle quand même, leur ligne économique, sociale, c'est bien la disparition programmée d'un certain nombre de services publics. Donc, on paye finalement pour désosser les services publics, et ce sont les services publics qui, sur leur budget, prennent la chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit... attentif au discours des candidats à la présidentielle sur la réduction du nombre de fonctionnaires. Parce que c'est facile, là aussi, d'avoir une pensée magique et de dire, vous verrez, moi, ce sera 150 000 fonctionnaires en moins. Très bien, mais le jour où, justement, vous avez besoin d'une expertise, d'une ingénierie pour dépolluer une ville, pour mieux la nettoyer, pour construire des logements sociaux, et que vous n'avez plus de fonctionnaires à disposition pour faire cette ingénierie, ben, vers qui vous tournez ? Vous vous tournez vers des agences de conseil privé et vous privatisez non plus simplement le service public, vous privatisez la réflexion politique au sein du ministère et vous déléguez à des sociétés privées des politiques publiques, la stratégie des politiques publiques. C'est une démission programmée du politique dont les politiques sont complices.
Là, on est sur fromage et dessert, c'est-à-dire qu'il y a les deux, il y a les fonctionnaires et les cabinets de conseil.
Bien sûr,
moi je trouve que c'est une analyse... un peu, pardonnez-moi, mais un petit peu simpliste. Le sujet n'est pas de faire appel à des boîtes de consulting. J'ai dirigé un établissement public culturel. J'ai fait appel à des boîtes de consulting, et encore heureux. Parce que, et l'objet n'était pas de réduire les effectifs de l'établissement. Mais il y a des sujets sur lesquels nous avons besoin, justement, d'avoir un regard extérieur. Donc le problème n'est pas de faire appel à des boîtes extérieures. D'ailleurs, pourquoi une entreprise pourrait et pas une administration ? Le sujet, c'est la gouvernance et c'est le suivi. Combien de fois, une fois que la mission est lancée, eh bien finalement, vous n'avez plus de pilote dans l'avion pour les remettre d'équerre, en disant, mais attendez, vous deviez me donner telle partie du rapport dans 15 jours, je ne l'ai toujours pas, et puis vous n'êtes pas allé interroger, et puis ce que j'ai demandé, ce n'est pas ça. Donc, c'est que la personne qui fait la commande, elle doit suivre. Or, on lance aujourd'hui des rapports partout dans l'État, et on ne sait pas si c'est le ministre qui suit, si c'est un directeur d'administration centrale, qui d'ailleurs, souvent une fois sur deux, est en total désaccord, mais on ne le dira pas, avec le cabinet du ministre, ou d'ailleurs les parlementaires qui ont poussé tel ou tel ministre à demander. Donc, il ne faut pas non plus, si vous voulez, jeter à la vindicte populaire quelque chose qui peut être sain, mais qui peut être sain à condition qu'on ne dépense pas, évidemment, des sommes qui sont en totale inadéquation avec ce qui est demandé, et surtout qu'il y ait du contrôle. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est
aussi, aussi.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous, tout à l'heure, quand j'évoque le fait que le problème, c'est justement les liens entre les hommes politiques et ces cabinets de conseil, vous me dites, il n'y a aucun rapport.
Non,
là, vous m'expliquez, le problème, c'est le contrôle. Mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est justement parce qu'il y a des connivences et qu'il y a des liens. Qu'il y a des liens de fait qui sont des liens de corruption. On fait très attention au secteur pharmaceutique en faisant en sorte que des conseillers, des conseillers ministériels dans le cabinet du ministère de la Santé n'aient pas une femme ou un mari qui fasse partie d'entreprises pharmaceutiques. Je pense qu'il faut généraliser ça sur l'ensemble des cabinets de conseil.
Je suis tout à fait d'accord, pardonnez-moi, mais c'est un autre sujet de savoir si la rémunération de tel ou tel compagnon, compagne, mari...
C'est lié, rémunération, la corruption est toujours liée à une logique de rémunération et de milieu et de lien.
Mais attendez, ça c'est un autre sujet, voilà. À ce moment-là, les compagnons...
Mais déjà, on a affaire avec des journalistes, on a beaucoup
également donner les rémunérations.
On va parler des compagnons, des journalistes, justement, ou des ministres. À tout de suite sur Sud Radio, on va parler... Je crois de Jean-Michel Blanquer et de Bissin.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Florence Berthoud, Alexis Poula, Eric Tegner et Nicolas Corato. On va revenir sur l'intervention de Valérie Pécresse hier face à Jean-Jacques Bourdin. On a parlé d'une de ses propositions à propos de la police, mais c'est vrai que c'était quand même un moment assez incroyable hier, assez fort. On va en reparler. On va parler également du prix de l'essence qui augmente, 0826-300-300 si vous voulez réagir. On est avec vous jusqu'à midi. Alors on continue notre tour de table, et ça fait partie des sujets qui ont occupé l'actualité et qui continuent de l'occuper. Eric Tegner, c'est un coup de gueule.
Oui, complètement, sur Anna Cabana. Donc en fait, par rapport à l'affaire Jean-Michel Blanquer,
Anna
il faut
Cabana,
savoir que Jean-Michel c'est... Blanquer est parti du coup à Ibiza pendant les vacances de Noël, et qu'en fait il est allé se marier. Bon, il a le droit d'aller se marier, mais il s'est marié avec Anna Cabana. Et Anna Cabana, hier soir, il s'avère qu'elle animait une émission sur I24 News dont le sujet était l'affaire Jean-Michel Blanquer, une émission durant laquelle clairement c'était pro-Jean-Michel Blanquer, expliquer qu'il, dans le fond, il avait le droit. Il y a des journalistes qui disent que c'est hypocrite et bien de prôner le télétravail, que dans le fond Jean-Michel Blanquer ne pourrait pas. Je trouve qu'encore une fois, en fait, c'est à un moment donné, je comprends pas qu'il y ait des journalistes qui n'aient pas la décence de se dire « Bon, ben, je ne vais pas forcément me mettre en retrait, etc. On ne demande pas ça aux gens de telle chaîne ou telle autre chaîne parce que je suis marié avec un ministre. Ils ont bien le droit, il y a le respect de la vie privée. » Mais qu'ils ne traitent pas de cette affaire en organisant une émission où il y a des chroniqueurs, je ne les citerai pas, qui ne sont pas capables de rappeler à Anna Cabana qu'à un moment donné, elle a des liens qui font qu'on peut quand même douter de ce qu'elle peut dire. Et c'est exactement ce
vous
dont je parlais
regardé,
tout
vous
à l'heure.
Vous avez écouté l'émission ?
Oui, complètement.
Et elle dit quoi ?
Ben, en fait, elle a déjà de base des invités qui défendent tous Jean-Michel Blanquer, et elle a plutôt une attitude de défense, sans être non plus dans la propagande,
hein,
etc. Moi, je trouve que c'était
très,
lié à ce que
compliqué.
Je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, en fait, on se retrouve avec parfois des journalistes, des hommes politiques ou des hommes d'affaires ou autres. En fait, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils ont tous des liens forts. Et ils vont jouer une comédie, et les gens, ils le voient. Et ce matin, donc, du coup, sur les réseaux sociaux, clairement, ça monte à fond. Je ne comprends pas que la chaîne I24 News ne soit pas posée cette question. Et je pense que ça montre bien qu'il y en a qui se croient vraiment tout permis.
Oui, oui, c'est compliqué. C'est compliqué de présenter une émission dans laquelle on est mis en cause.
Oui, et sans le dire, d'ailleurs.
Ouais. Nicolas Corato ?
Oui, mais moi j'avais un coup de gueule, mais qui était un peu à l'inverse, donc je peux peut-être enchaîner. Mais moi, je suis pas, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Moi, ça m'intéresse pas de savoir qui est marié avec qui part en vacances avec qui couche avec qui pense avec qui ou contre qui, et si un ministre doit partir en vacances ou pas, et où il part. Moi, je suis quand même un peu choqué du niveau du débat sur lequel on est en train de tous s'enfermer, ce niveau de l'anecdote.
D'accord,
moi, Jean-Michel Blanquer, j'ai un problème politique avec Jean-Michel Blanquer. Moi, j'aimerais qu'on parle du scandale de Parcoursup, qui est un scandale national et qui est une, quasiment une affaire d'État, puisque nous confions l'entrée dans la vie sociale et professionnelle et étudiantine de nos enfants à un algorithme, et qu'il y a une majorité et un ministre qui a accepté de le faire et de le maintenir coûte que coûte. J'aimerais qu'on parle de Jean-Michel Blanquer et de sa réforme inique du baccalauréat, qui a définitivement tué le baccalauréat et quasiment l'organisation des lycées. J'aimerais qu'on parle de la manière dont Jean-Michel Blanquer a laissé des étudiants à la dérive, tous les étudiants à la dérive, avec sa ministre inefficace et absente, pendant 2 ans, pendant la crise sanitaire. Et moi, le sujet pour Jean-Michel Blanquer, c'est pas Ibiza. Moi, d'ailleurs, je pense qu'on peut traiter, je veux dire, aujourd'hui, il y a 30% des salariés qui sont en télétravail. Pourquoi est-ce que les ministres pourraient pas traiter leurs affaires depuis l'étranger ou à distance? C'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque quand même, c'est notre capacité à tous de nous polariser sur des anecdotes, sur des histoires de coucherie qui ne regardent que les intéressés. Et moi, je suis quand même très attaché à les libertés. Et je pense que la liberté, les ministres et leurs compagnons y ont aussi droit. Je veux dire, nos élus ne sont pas des gens qui ont un statut différent de ceux des citoyens, ni au-dessus, mais pas en dessous non plus. Donc, je n'aimerais pas, moi, qu'on vienne me dire que ma compagne parle tel sujet. Alors, et pardonnez-moi sur un acabanage. On peut être une femme, on peut être une femme mariée et avoir le droit de parler de son mari de la manière la plus objective possible. Ça s'appelle aussi le professionnalisme. Donc, moi, j'aimerais qu'on traite, vous voyez, des vrais sujets, des sujets politiques qui concernent les Français. Moi, j'aimerais qu'on interroge Jean-Michel Blanquer sur Parcoursup. Pourquoi est-ce qu'il s'entête à laisser ce système qui crée de la frustration et de la violence sociale à tous les échelons de la société? Qu'il aille à Ibiza, je m'en fiche. Qui continue à faire fonctionner cet algorithme, qui est un algorithme tueur d'espoir pour les jeunes, ça me semble beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important comme débat. Je préférerais entendre Valérie Pécresse sur ces sujets plutôt que sur le reste.
Et à l'inverse, certains qui défendent Jean-Michel Blanquer, et même lui hier quand il s'est exprimé aux 20h, a dit « ça me fait quand même mal au cœur d'être en position d'accusé alors que j'ai tout fait pour garder l'école ouverte, que je travaille 7 jours sur 7, etc. » Donc on peut aussi voir le verre à moitié plein de l'autre côté.
Moi, je trouve que c'est super démago de dire ça. À un moment donné, désolé, mais si c'est pas important, dans ce cas-là, pourquoi Anna Cabana fait une émission sur le sujet? Je trouve qu'il y a quelque chose d'hypocrite de choisir de faire une émission sur le sujet. Elle pouvait ne pas en parler et derrière, d'essayer de faire en sorte de faire une émission qui allait le défendre. Ensuite, le deuxième élément, si vraiment c'est pas important, pourquoi Jean-Michel Blanquer est allé faire un 20h? Moi, je trouve que sa réaction était complètement disproportionnée. Sa réaction et son intervention à l'Assemblée nationale était largement suffisante. Je pense qu'en fait, non. S'il a répondu, c'est qu'il ne voulait pas répondre en soi aux Français. C'est qu'en fait, c'est effectivement une affaire qui est sortie du clan Macronie, je pense, du côté du ministère de la Santé. Il se renvoie la balle. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la politique sanitaire, elle est aussi menée pour des raisons politiques, notamment sur le pass vaccinal. Et donc, de comprendre la sincérité des gens ou pas, eh bien, c'est important de comprendre pourquoi ils mènent tel ou tel acte. C'est important. À un moment donné, vous savez, les Français, s'ils sont aussi désabusés de la politique, c'est justement qu'ils n'ont plus confiance dans les responsables politiques et donc ils se doivent d'être exigeants. Il n'y avait plus que 3 mois avant la fin de la campagne présidentielle. Ils pouvaient repousser de 3 mois son voyage à Ibiza.
Alexis.
Oui, alors après, il y a 2 choses. Il y a la vie privée des hommes politiques. Il faut la respecter comme de n'importe quel citoyen. D'ailleurs, ce serait bien d'ailleurs à ce sujet de mettre à la poubelle le pass sanitaire. Ça permettrait de respecter la vie privée de tous et également le secret médical. Et l'autre chose, après, c'est le problème de la sphère politico-médiatique. En réalité, moi, ça me gêne qu'une journaliste soit mariée avec un ministre. Ça me gêne. Et qu'elle soit en exercice. Certains journalistes...
Elle s'est retirée de BFM TV. Elle est journaliste aujourd'hui littéraire au Journal du Dimanche. Et elle a effectivement cette émission d'actualité sur I24. Mais elle a quitté, j'ai envie de dire, la grande antenne de BFM.
Ouais. Mais, enfin, ça va. Ouais. C'est un lot de consolation en attendant que Jean-Michel soit plus ministre. Mais globalement, cette endogamie qu'on a en France entre politique et journaliste, il n'y a que dans notre pays où ça atteint ces sommets-là. C'est pas acceptable. Comment voulez-vous ensuite
Alexis,
On peut pas se plaindre après un pays où la confiance dans les médias est la plus basse dans tous les pays de l'OCDE et d'avoir des médias qui ont ces pratiques-là. Voilà, c'est à un moment, soit on est correct et on fait correctement son travail vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis des spectateurs et des lecteurs, soit on fait n'importe quoi et on dit que tout ça, c'est un cirque, c'est un théâtre et c'est la société du spectacle et on est totalement là-dedans. Et dans ce cas-là, on ne pleure pas quand on voit que les journalistes se font courser dans l'heure de manif et que, en plus, la
confiance dans les médias est au plus bas.
C'est lamentable. Enfin, c'est pas possible de faire des trucs pareils. C'est comme comment le JDD a pu publier cette interview qui est faite au téléphone depuis Ibiza en
c'est
mettant la photo de Michel Blanquer dans son bureau.
Mais
c'est de la manipulation, c'est du mensonge.
Mais non, c'est de l'iconographie.
On fait une interview par téléphone. Mais on n'envoie pas un photographe à chaque fois qu'on fait une interview, Alexis. Enfin,
mais alors on met entretien réalisé au téléphone.
Mais ça ne les regarde pas, Alexis. Ça ne les regarde pas.
Bien sûr que
mais non, ça ne les regarde pas. Pardonnez-moi, c'est de la vie privée. Et Alexis, je ne vous suis pas. On va interdire aux journalistes de se marier avec des politiques.
Au téléphone.
Qu'est-ce qu'on fait? On interdit aux journalistes de se marier avec des politiques? Vous voulez créer des situations sous citoyens? Mais c'est le comité de salut public. J'adore, mais quand même, enfin, on va pas aller jusque là.
À un moment donné, si Anna Cabana s'est retirée de BFM TV, c'est qu'à un moment, que ça posait un problème. Désolé de le dire.
Anthologie, vous mettez ce métier entre parenthèses, vous faites autre chose.
Attendez, on marque une pause, Alexis.
Compagne de politique.
Faut envoyer la pub, mais on se retrouve, on continue. Florence voulait réagir, Florence Berthoud. Oui.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Bon, je vais donner la parole à Florence Berthoud sur ce qui vient d'être,
non, parce que,
d'être dit.
Pardonnez-moi, mais je suis extrêmement choquée parce que... Je fais partie de ces personnes qui, par éducation, par parcours personnel, etc., considèrent que il y a, si vous voulez, il doit y avoir une ligne entre la vie publique et la vie privée. Mmh. Voilà. Et pardonnez-moi, mais moi je ne vois pas en quoi, au risque de vous choquer, mais en quoi le fait que tel ou tel vivent d'ailleurs, soit mariés ou pas, il n'y a pas besoin d'être mariés, d'être paxés pour avoir des relations intimes qui peuvent déborder sur le travail. J'ai fait pendant 15 ans, c'est les hasards de la vie du cabinet ministériel, croyez-moi. Si effectivement on doit influer sur la presse, il y a bien d'autres moyens que ça. Voilà. Ouais. D'ailleurs, de manière pas forcément volontaire, on est amis intimes, amis absolument d'enfance, on aime les mêmes vins, les mêmes restaurants, on a les mêmes activités. Il va y avoir ce qui peut apparaître de près ou de loin comme de la collusion. Qui peut m'affirmer dans ce débat qu'on n'a pas reçu une fois un petit appel téléphonique d'un copain en disant « Tiens, bah, si tu peux me donner un coup de main, là. » Bon. Et c'est à chacun de fixer les limites. Donc, la seule chose que moi, je revendique, j'étais d'accord avec ce qu'a dit, je ne sais plus, sur le
Nicolas
fait que...
Voilà,
Parcoursup, etc. Oui. Ça, c'est des sujets. Mais là, franchement, on est en train de prendre par le petit bout de la lorgnette les questions. Des vrais débats légitimes sur l'avenir du baccalauréat, l'entrée à l'université. Ça, ce sont des sujets. Que de savoir que Dupont ou Durand qu'à chaque fois qu'on va animer une émission ou écrire même un papier, il va falloir avoir un nota bene expliquant quel est son compagnon, etc. Moi, je vous assure que cela me choque profondément. Je le dis d'autant plus que moi, je n'ai jamais pratiqué ce genre de collusion. Donc, mais de grâce, les hommes et les femmes politiques comme les journalistes ont aussi le droit d'avoir une vie privée qui, pardon, mais ne doit pas être livrée en pâture midi et soir.
J'ai une question, elle n'est vraiment pas pour vous piéger. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez pensé de Valérie Pécresse face à Jean-Jacques Bourdin hier soir?
Ben voilà, c'est notre sujet...
Pourquoi
sujet.
Le rapport avec
quel
le
rapport,
président
bah alors, le rapport, quel est le rapport c'est qu'elle a commencé son émission en parlant d'une affaire, désolé, qui est une affaire privée, où il y a de la, présomption, où il y a de la présomption d'innocence. Et elle l'a
dit. Je trouve que c'est très bien, on va y revenir. Ah ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé, on va en reparler, parce que je trouve que la bonne entrée, c'était de rappeler qu'il y a un principe de droit, qui est un principe absolu de présomption.
Mais elle l'enfonce. Écoutez, on va réécouter.
Je trouve qu'il y a un double discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement les contradictions et les doubles discours, parce que les gens, ils en ont marre, en fait, de ceux qui tiennent des discours on, des discours off qui sont différents, qui essayent de parler d'un côté.
Vous, je veux pas vous piéger non plus, mais vous, c'est pas votre chacun, vous n'avez pas des
mais moi,
affinités.
Je passe ma vie, mais moi, je passe ma vie à avoir des journalistes qui écrivent des articles
mais vous,
sur
vous
moi
n'êtes pas journaliste.
Pour expliquer que. Mais si, bien sûr, mais pour expliquer que parce que, par exemple, je suis ami de Sarah Knafo, qui est la conseillère d'Éric Zemmour, bah, ça veut dire que de toute façon, je suis dans l'équipe de, d'Éric Zemmour. C'est ça bah, en
c'est
permanence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a. Oui, mais il y a un double. C'est-à-dire, d'un côté, les grands médias mainstream, d'un côté, certains ministres, des politiques, eux, il faut absolument les préserver. Et de l'autre, il y a des opinions dissidentes où il faut absolument trouver, vous savez, l'arrière-cousin ou la personne que vous avez croisée à l'âge de 15 ans qui est devenue
mais
un peu facho, qui a été condamnée. Derrière, on va dire, mais pas du tout. Pas du tout.
Vous dites la même chose. Vous dites la même chose. En gros, il peut y avoir des amitiés qui sont du fait de la vie, qui font que vous pouvez rester objectif peut-être dans votre...
Moi, la différence, c'est que je l'explique. C'est-à-dire que moi, je ne cache rien. Par exemple, sur cette histoire où, eh bien, moi, je suis plutôt un bon ami de Sarah Knafo et Éric Zemmour. En fait, les journalistes le savaient parce que je l'ai toujours dit. Mais est-ce que je le cache pas? Et en même temps, je dis que je suis objectif. Je vais pas animer une émission
pourquoi,
en expliquant.
Pourquoi Anna Cabana serait. Bon, là, on parle pas.
Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être objective. Je dis qu'elle trompe. Qu'elle trompe les gens.
Exactement.
Non, pas du tout. Les gens savaient pas qu'elle s'était mariée il y a 10 jours. Hein. Il y a plein d'articles depuis.
Mais
ont-ils
à le savoir?
Qu'elle s'est mariée il y a 10 jours.
Mais ont-ils à le savoir?
Qu'est-ce que vous en savez?
Bah justement, donc d'un côté on peut pas dire tout le monde le sait. D'un côté on peut pas dire tout le monde le sait.
Mais qu'est-ce que vous avez?
Non mais c'est marrant. D'un côté vous me dites tout le monde le sait et de l'autre vous me dites comment ça montre bien qu'on ne sait pas vraiment.
Mais on s'en fiche.
Et donc à un moment donné, dans ce cas-là, qu'elle anime pas cette émission. Je suis pas en train de dire qu'elle doit quitter 24
heures. Attendez,
l'émission par quelqu'un d'autre.
Parce que ce débat peut durer très longtemps. Oui, en fait, absolument. un des gros problèmes, c'est l'entre-soi, c'est l'endogamie, c'est la reproduction des élites. C'est ce qui fait qu'on a le populisme. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de confiance dans la parole des scientifiques, des médecins, des politiques, des ce que vous voulez, des journalistes, etc. Parce que on sent bien qu'il y a une lutte des classes qui s'est fait jour là, et que évidemment, vous avez d'un côté ceux qui n'en sont pas et ceux qui en sont. Et c'est ça le problème. Et évidemment, on ne va pas refaire le monde. Le monde, il est comme ça. Vous avez des riches, vous avez des pauvres, et puis vous avez vous avez Saint-Germain à Paris, voilà, et tout se passe à Saint-Germain, c'est comme ça. Mais c'est terrible parce que derrière, quand vous dites finalement bah, c'est comme ça, bah, ça va faire renforcer encore davantage la défiance. Vous allez avoir deux France, vous allez avoir une rupture qui va être encore plus catastrophique. Il faut à un moment aussi arriver à recoller les morceaux.
Bien
et
sûr.
Dire, oui, il faut peut-être un peu plus de déontologie. Oui, il faut peut-être aussi un peu plus de diversité hein, dans ce recrutement des élites, entre guillemets. Parce que sinon, qu'est-ce que vous avez? Une pensée unique. Une pensée unique qui fait que ce que vient de dire Eric, d'un côté, vous avez ceux qui ont le droit d'avoir des amis célèbres et d'autres, ceux qui vont être montrés du doigt parce que ah, c'est honteux ce que vous faites, monsieur.
Mais je trouve qu'on mélange tout.
Mélange un peu tout.
Je veux dire, le sujet de l'endogamie et de la reproduction des élites, et c'est un vrai sujet. Moi, j'ai été boursière de l'éducation nationale pendant toute ma scolarité, donc je peux vous en parler, de reproduction des élites, qui est un vrai drame parce que oui, il y a deux France, vous avez mille fois raison. Mais je ne crois pas que ce soit, si vous voulez, en instrumentalisant comme on le fait, la vie politique des uns, la vie, pardonnez-moi, personnelle des uns et des autres. Je dis juste ça. Voilà. Et il y a des vrais sujets. Et le sujet de la reproduction des élites, ça en est un. Mais il n'est pas lié à qui couche avec qui.
C'est pas la vie privée de Jean-Michel Blanquer.
Il n'est pas lié à coucher. Si vraiment c'était pas un sujet, pourquoi Anna Cabana décide de faire une émission sur ce sujet-là?
Mais on ne dit pas que c'est pas un sujet.
Je trouve ça quand même délirant, quoi.
Mais c'est la presse, elle n'est pas parisienne.
Anna Cabana et Blanquer. C'est pas une affaire.
Vous rendez compte que
Cabana en fait une affaire.
C'est intéressant parce que si on va au bout de ce raisonnement, et moi je pense qu'effectivement le vrai problème aujourd'hui c'est le prédéterminisme social, la reproduction des élites, le fait qu'on n'arrive pas à associer un certain nombre de Français à la vie publique et à la direction de ce pays. Ça, c'est un sujet majeur. C'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Mais vous voyez, si on va au bout de cette discussion, j'étais en train de me dire, il va peut-être falloir maintenant qu'on explique à Juliette Rouffiol qui fait la programmation de cette émission, qui on a vu hier soir, avec qui éventuellement on a couché, pour effectivement être dans cet exercice de transparence et de déontologie.
Elle le sait déjà, Juliette.
Elle a des fiches.
Vous étiez hier soir. Attention.
Mais bien sûr. Donc moi j'aimerais qu'on s'applique deux secondes par esprit nos idéologies et nos raisonnements à nous-mêmes et qu'on se dise quand même il y a une limite et la limite c'est quand même le respect de cette vie privée et le respect de nos libertés.
Tout à fait d'accord.
Ça ne me choque absolument pas moi que les uns se marient avec les autres. Ce qui m'intéresse moi c'est le débat
public. Quand les gens faisaient que d'expliquer
le débat
le
sur le
monde,
fond.
Le Parisien que Sarah Knafo était la compagne d'Éric Zemmour. Encore une fois en fait la vérité c'est que les gens ils sont d'accord avec vous. Sauf que dans les faits il y a ceux qui de par leur position
peuvent se protéger en utilisant cet argument et qui sont bien contents
de le mettre à la poubelle. La preuve, ils ne se protègent pas, c'est dans la presse aujourd'hui.
Quand il faut s'attaquer aux autres. Parce que dans les faits, il y a des gagnants, il y a des perdants. Dans les faits, il y a des grands médias et il y a des journalistes qui sont protégés quoi qu'il se passe, qui sont recasés, etc. Et
vous découvrez le rapport de force en politique, c'est formidable. Vous êtes quasiment marxiste.
Ces discours populistes font un mal, mais fou. Mais fou à la démocratie. Mais non, mais voilà. Il y a les méchants, mais vous faites un mal fou par des discours populistes. Non,
pas,
je suis pas maire de Paris.
Mais non, mais vous êtes maire à Paris, vous savez, oui, bah, dans le 5e arrondissement. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant qu'aujourd'hui, il y a énormément de connivence. Je pense que ce qui pose un problème, justement, c'est que les gens ne cessent de ne pas le dire. S'ils font des généralités, mais quand on commence à se concentrer sur des personnes, etc.,
mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est la reproduction des erreurs.
On refuse de le faire. Et c'est pour ça que les gens, ils y croient pas, parce qu'ils entendent le beau discours.
Moi, je ne crois pas au ad hominem. Je pense qu'effectivement, le sujet de la reproduction des élites, donc la manière dont on recrute à l'ENA, dont il y a une collusion entre Polytechnique, Normale Sup, etc., ça, c'est des sujets.
Non, je pense que le recrutement à l'ENA,
savoir qui.
Pour le coup, je suis pas d'accord.
C'est un mensonge total. Il suffit de regarder. Le nombre d'enfants issus du monde ouvrier, du paysan, franchement, mais il faut objectiver les chiffres. Comment pouvez-vous dire des trucs comme ça?
Non, mais oui, mais il y a une différence. Mais ils ne sont pas sélectionnés. Ils sont quand même sélectionnés par rapport à leurs résultats.
Oui, mais c'est pas ça, la méritocratie.
Selon que vous êtes dans une famille... Selon que
vous savez, j'ai été boursier, il n'y a pas de problème.
Mais il y a une majorité quand même de gens
d'origine socioculturelle quand même influe énormément dans la reproduction des élites.
Moi, je vais vous dire, on a énormément de gens à la tête de l'État aujourd'hui qui sont effectivement des anciens boursiers. Moi, je considère, et je ne suis pas du tout un socialiste, etc., je considère que ces gens-là, en fait... on se croirait dans un Balzac, c'est-à-dire que ce sont des traites par rapport à leurs origines. Ça veut dire qu'en fait, ils ont une frustration sociale, ils arrivent enfin à accéder à l'ENA, à des grands postes, et au lieu de rendre ça au peuple, en fait, eh bien, ils se baignent complètement dans un milieu, et ils en oublient de défendre les autres. Donc ça ne veut rien dire. Moi, un homme politique vient me voir, qui me dit, je pense à Darmanin, qui explique tous les soirs que sa mère est femme de ménage, etc. Pour moi, ça n'a aucune valeur, parce que justement, le problème, c'est pas tant l'accession à l'ENA que le fait que ces écoles finissent par fabriquer des gens qui pensent de la même chose, qu'ils viennent d'un milieu bourgeois ou d'un milieu pauvre.
Je pense que qu'on vienne d'un milieu pauvre ou d'un milieu bourgeois, votre vie, ce que vous êtes, vous a structuré différemment.
Votre vécu vous ouvre quand
votre
même pas.
Votre vécu vous ouvre
vous
différemment.
Vous avez les chakras de la même
si
manière.
Si vous avez connu la difficulté
quand même,
au quotidien en
ça
étant enfant, c'est pas la même chose que d'avoir
un évidemment, vous faites partie d'un système à un moment donné, il y a des règles non écrites, là. Mais quand votre vécu va influencer quand même la manière dont vous allez vivre, concevoir
la façon de former les gens, c'est-à-dire de leur expliquer d'abord comment on doit se comporter dans le monde actuel, bride complètement ça.
Mais je discutais moi avec des journalistes qui côtoient les politiques et qui me disaient, mais moi j'ai eu beaucoup plus d'influence par des amitiés politiques qu'en couchant avec eux, quoi, d'une certaine manière.
Ça vient d'accoucher, c'est pas de ça dont je parlais du tout depuis le début, en fait.
J'aimerais qu'on parle de Valérie Pécresse face à Jean-Jacques Bourdin. On va y revenir dans un tout petit instant, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On va revenir sur le préambule de Valérie Pécresse avant l'émission politique sur BFM TV hier. Regardez.
Écoutez. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement, si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte.
Vous avez pensé quoi ?
Moi, je vais vous lire un tweet qu'elle avait fait justement en 2013 sur l'affaire Georges Tron. Elle avait dit « Heureuse pour Georges Tron de son non-lieu. Je pense aux épreuves qu'il a endurées. La présomption d'innocence existe-t-elle pour les politiques ?» Il faut savoir qu'à l'époque, sur Georges Tron, il était surnommé à l'Assemblée le masseur chinois. Tout le monde était au courant. Donc en fait, c'est exactement le même sujet que depuis une heure. C'est-à-dire qu'il y a des hommes politiques qui sont des hypocrites.
Elle a bien parlé de présomption d'innocence.
Hier, elle a fait une opération qui était vulgaire et grossière. C'est-à-dire qu'elle veut essayer de séduire le vote des femmes, elle veut être progressiste, etc. Si à un moment donné...
Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre?
Soit elle ne disait rien, soit elle n'allait pas à l'émission. Point, c'est tout. À un moment donné, il faut être cohérent.
Vous avez une équipe,
en fait.
Ce qu'elle dit, des gens qui ont mis en place une émission,
et alors,
etc.
C'est-à-dire que pour elle, en fait, elle explique que c'est plus important le travail d'une émission que potentiellement des femmes qui se sont faites, d'une femme qui s'est faite agresser sexuellement. Encore une fois, à un moment donné, il faut qu'elle choisisse. Donc, soit elle respecte la présomption d'innocence et elle n'attaque pas M. Bourdin. Moi, je pense que Bourdin, d'une certaine façon, c'est bien fait pour lui parce que c'est le professionnel de faire ça. Mais ça
de
m'a quand même choqué.
Professionnel de quoi?
Bah, c'est le professionnel
d'agresser
quand même
les femmes
de, non, de balancer, de balancer des choses sur les gens, etc., ah. Sur ses interviews. Voilà, il y a un retour de bâton. Voilà, c'est comme ça. Mais dans le fond, Valérie Pécresse, c'était indigne d'utiliser Jean-Jacques Bourdin pour des fins politiques et de pas être capable juste d'assumer, de dire bah, je vais pas à l'émission, voilà, à un moment donné. Et c'est pas parce qu'elle répète il y a la présomption d'innocence. Franchement, Bourdin, il m'a fait de la peine en face, j'ai vraiment pitié. Je me suis dit bah, à un moment donné, j'en sais rien.
Vous disiez, vous veniez dire l'inverse il y a 3 minutes en disant c'est bien fait pour lui.
Non,
parce que
ce dont je parle à chaque fois, c'est le fait qu'il y a un moment donné une cohérence. Ouais, non, mais moi je suis cohérent. Alors, dans le fond, j'ai ressenti le fait d'être choqué. Et dans le même temps, je me suis dit bon, bah, à un moment donné, c'est un juste retour de bâton. Et je pense que les gens, ils pensent la même chose.
Florence Berthou.
Bon, moi, j'avoue ne pas comprendre du tout ce que dit mon interlocuteur, mais c'est sans doute parce que je suis un peu bas de plafond. On a bien compris que vous n'étiez pas, matin, midi et soir, apparemment, Valérie Pécresse, c'est quand même un sujet assez obsessionnel. Elle rappelle la présomption d'innocence, c'est quand même la moindre des choses, et après, elle dit, et c'est son droit le plus absolu comme d'autres, ce qu'elle a à dire et pense sur les violences dont sont victimes les femmes, et d'ailleurs pas que les hommes, mais si vous regardez la dernière une étude extrêmement intéressante qui est sortie de l'Université de Lille, on en avait parlé d'ailleurs, je crois, sur vos antennes, quelqu'un en avait parlé sur le plateau, qui est sortie à l'automne 2021, les trois quarts des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes, enfin les trois quarts, pardon, des femmes disent avoir été un jour victimes d'agressions sexuelles, un quart des hommes. Les viols ont augmenté de 11% depuis l'année dernière. Il y a 7 féminicides depuis le début de l'année. Donc, il ne faut évidemment pas tout mélanger dans le gros chaudron médiatico-populiste, etc. Mais c'est une réalité. Et donc, on ne peut plus fermer les yeux. Donc, grand 1, présomption d'innocence. Grand 2, pas de déni. Mais pas de déni, ça suppose d'en parler un tout petit peu quand même.
Ouais. Non, voilà.
Alors, Alexis Poulain.
C'est-à-dire que il y a à la fois le fait qu'elle dit ouais, en fait, elle aurait été critiquée de ne pas y aller, elle aurait été critiquée de ne rien dire. Donc c'est compliqué. Donc elle essaye de ménager la chèvre et le chou, de dire je suis là, sais que j'aurais pu pas venir, je dois dire en introduction avant qu'on commence que voilà ce que j'en pense, avec la justice qui fait son travail, etc. Bourdin est choqué derrière son micro. Je ne sais pas si c'était mis d'accord avant. Enfin, ça paraît quand même
oui, ça avait
une surprise.
Été, ça avait été prévu. Elle avait dit qu'elle aurait un préambule, mais il ne savait pas ce qu'elle allait dire.
Faut d'accord. Hésiter, okay. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc, on sent quand même. Voilà. Et peut-être il s'attendait à ça, mais. Bon, c'est très politique, c'est un mouvement pour dire, voilà, je suis une femme, je suis la candidate des femmes, vous êtes nombreuses dans ce pays, votez pour moi, ça va changer votre vie. Il y a un peu de ça derrière. Or, c'est pas vraiment derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le débat agité qu'on a pu avoir, animé, pardon, c'est la présomption d'innocence et c'est une affaire qui relève de la vie privée, évidemment. Donc, c'est deux poids, deux mesures.
Vous êtes, concerné, enfin, vous êtes face à quelqu'un dont vous dites, j'ai pas forcément envie d'être face à quelqu'un sur qui pèse cette présomption de culpabilité. Donc, effectivement, ce qu'elle aurait peut-être pu faire, c'est exiger un autre animateur. Ça aurait pu un autre journaliste, mais c'est pas possible non plus. Oui, ça revient à l'accuser aussi. Nicolas, Corato.
Oui, peut-être sur ce point, d'abord, il n'y a pas de présomption de culpabilité, il n'y a qu'une présomption d'innocence en France. Donc, voilà, on est tous présumés innocents lorsqu'on est mis en cause jusqu'à un jugement définitif. Moi, je trouve qu'elle s'en sort pas mal. Mais effectivement, moi, je me suis plutôt posé la question du format de cette émission et notamment du choix de ce journaliste. Parce que ce n'est pas une émission récurrente. C'est une nouvelle émission que la chaîne met à l'écran dans le cadre de la présidentielle. Et c'était le premier numéro de cette émission. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, Marc-Olivier Fogiel s'est exprimé sur le sujet. Il y a plein de journalistes à BFM TV qui auraient pu faire l'exercice, qui l'auraient fait très bien, des femmes comme des hommes, d'ailleurs. Donc, il y a un choix délibéré qui n'appartient pas à Valérie Pécresse, c'est pas elle qui a éditorialisé l'émission, un choix délibéré de la direction de l'antenne, de confier ce programme, qui est quand même un programme très important dans la grille des présidentielles de BFM TV, à Jean-Jacques Bourdin, en connaissance de cause d'une enquête et d'une plainte qui a été déposée contre lui pour agression sexuelle. C'est plutôt ça, moi, qui m'interroge. Je dis pas que Jean-Jacques Bourdin devrait être interdit d'antenne parce qu'il y a cette plainte, mais lui confier une nouvelle émission et une émission aussi phare, aussi emblématique pour la chaîne, oui, dans un moment aussi important, c'est pas une décision neutre. C'est une manière de faire un choix et de faire un arbitrage que la chaîne assume et que Marc-Olivier Fogel, après ce que j'ai compris, assume parfaitement. Mais c'est plutôt ce sens-là. Et je comprends, et d'une certaine manière, face à cette réalité imposée par la chaîne, je trouve que Valérie Pécresse s'en sort plutôt pas mal. Et je pense qu'elle gagne plutôt des points, parce que finalement, on ne parle que de ça et on ne parle que de son introduction. Je trouvais que le reste de l'émission était beaucoup moins à son avantage, notamment sur des questions de fond. Mais c'est vrai que on retiendra cette introduction et on retiendra que ce discours assez emblématique et assez inédit d'ailleurs, d'une candidate à la présidence de la République qui met les pieds dans le plat sur le sujet des agressions sexuelles. Moi, je trouve que c'est plutôt bien joué.
Mais oui, je suis d'accord avec vous, hein, c'est bien joué et on le retiendra. Et c'est exactement ce dont on parle. Ça veut dire qu'à un moment donné, à l'époque, pour Georges Tron, elle disait rien. Elle acceptait que son parti l'investisse pendant 10 ans, alors que tout le monde savait que c'était un violeur. Et aujourd'hui, il est en prison. Et maintenant qu'elle est candidate à la présidentielle et qu'elle fait campagne, eh bien, elle fait une séquence qui est une séquence politique. Et je pense que c'est une question qui est importante à soulever. Donc oui, elle a fait une bonne opération.
Pardon ? Il est en prison pour viol. Oui.
Voilà, donc à un moment donné, encore une fois, c'est le fait de le vrai sujet, vous savez, et c'est un sujet, moi comme analyse, que je vois sur Valérie Pécresse, elle a du mal en fait à imprégner, elle a du mal à monter dans les sondages, parce que les gens se disent, voilà, elle s'est droitisée pendant la campagne des primaires pour être élue. C'est le sujet qui concerne Valérie Pécresse, c'est le sujet de l'honnêteté et de l'authenticité.
Et là, vous la croyez pas sincère quand elle fait ce préambule.
Moi, je trouve que vraiment, elle a le syndrome Wauquiez également, qui la touche.
La manière dont elle...
La
manière dont elle prend le sujet, je pense que d'une certaine manière, elle peut pas, si elle ne va pas à l'émission, elle s'érige en procureur, et à l'inverse, la charge de la preuve, comme le disait... notre collègue, effectivement, le choix éditorial, il est porté par la chaîne. Donc, je pense que c'est plutôt courageux. Alors après, on peut mettre en doute, évidemment, l'authenticité. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je pense que c'était quand même assez équilibré, semble-t-il.
Je ne sais pas si vous l'avez fait passer à l'antenne ce qu'elle a dit. Vous savez, si elle avait dit, écoutez, il y a cette histoire, je pense que c'est compliqué, etc. Là, vraiment, la façon qu'elle a eue d'attaquer Jean-Jacques Bourdin était une façon de cautionner tous ceux qui disent qu'à partir du moment où il y a une plainte, ça veut dire que parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, 75% des agressions sexuelles sont pour les femmes, qu'en fait, dans ce milieu, etc., globalement, tout est caché. Jean-Jacques Bourdin, de base, est coupable. C'est la manière avec laquelle elle a intervenu qui, pour moi, m'a choqué, parce qu'elle a cautionné tout ça.
Qu'est-ce que vous auriez conseillé, si elle avait envie
de dire les choses, elle aurait pu le faire de façon... beaucoup moins violente.
Donc, et là,
je pense qu'elle s'adresse aussi à des femmes, elle s'adresse aussi à un électorat de centre-gauche qu'elle vise, parce qu'elle vise un électorat de centre-gauche qui considère justement assez souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En gros, c'est ça le sujet. Et donc, à partir du moment où il y a une plainte contre un homme politique ou contre un journaliste pour viol, il y a 90% de chances que ça soit vrai. Voilà le message qu'elle a voulu envoyer.
Ah bah ça, c'est vous qui le reposez. C'est pas du tout ce qu'elle a dit.
Alexis, un mot ?
Oui, non, parce qu'elle a clairement... Alors après, la charge était violente. Elle aurait pu le faire autrement, dans la forme, mais elle a bien souligné qu'il y avait la présomption d'innocence et clairement, elle a utilisé cette affaire pour se positionner sur un électorat, je suis d'accord, de centre-gauche, où elle va aller chercher du côté de la Macronie, de l'égalité.
Vous croyez que le viol ou l'agression des femmes, c'est un sujet de centre-gauche ?
Non,
c'est un sujet transpartisan, mais là-dessus, le fait qu'elle ait attaqué frontalement comme ça, qu'elle se positionne sur ce thème-là, de manière aussi ostentatoire, c'est un choix politique
évident, et c'est ce qu'on retient de cette intervention. Donc, c'est pas anodin, c'est un moment important de cette campagne, finalement.
Ouais. En même temps, elle,
pour elle, elle marque des points, puisque sa grosse différence face à Emmanuel Macron, c'est que elle, c'est une femme.
Allez.
Voilà. Mais... et qu'elle va peut-être faire des choses pour l'égalité homme-femme qu'Emmanuel Macron n'a pas fait. Voilà.
Merci à tous les quatre. Très bonne journée, très bon débat aujourd'hui, passionnant. On est parti sur d'autres chemins. On n'a pas parlé. Non, on en reparlera. On vous réinvitera, Florence. Allez, très bonne journée sur Sud Radio. À demain.